RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News. Dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là comme tous les lundis. Daniel Riolo, Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Pierre Ducrot également est là. Pierre,
bonsoir, bonsoir monsieur.
Ça va bien?
Très bien.
Alors, l'événement ce soir de l'after, c'est le dernier finaliste de notre After Academy, qui est là. Maxime est avec nous. Salut Maxime.
Bonsoir.
Bonsoir Maxime.
Et bienvenue parmi nous.
Merci de m'accueillir.
Bah écoute, t'es là, t'es chez toi, hein, tu t'interviens comme tu veux. Je sais que t'as un avis très clair sur le match de demain et sur les blessés du PSG, on en parlera tout à l'heure. Oui, parce que la Ligue des Champions reprend, les gars. Eh oui.
Ah bah oui, oui,
on mine
oui,
de rien, on ça l'attend. Fait un mois et demi là qu'on attend.
Oui.
Donc c'est demain et ça démarre fort avec Manchester PSG évidemment, donc toutes les infos à suivre. Alors à vrai dire, on attend la compo de nos envoyés spéciaux, hein. Ils sont plusieurs à Manchester là, donc on attend qu'ils nous confirment bon, alors plutôt quand même une idée assez claire de ce qui va se passer.
Il n'y a pas vraiment de surprise.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais
c'est
quoi, on en
mais il faut quand même confirmation, quoi.
Oui, mais on sait les 11 joueurs, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix.
Tu sais quoi, Daniel, on en parlait dans l'ascenseur là, en descendant. Je me disais, Tourelle, ça se trouve, est capable de nous faire une petite surprise quand même.
Tu ne crois pas une seconde.
Non, tu ne crois pas une seconde.
Mais en fait, je ne vois pas avec qui pourrait la faire.
Je ne sais pas, un choupeau justement devant.
Choupeau voting.
Ah non.
Puis là, il y a une rumeur depuis une petite heure que Kurzawa pourrait être aligné à la place de Bernat.
Non,
mais ça, c'est pas
possible. C'est pas une rumeur, c'est un délire.
Non,
sur la mise en place tactique d'hier soir, c'est Kurzawa qui avait le chasse.
C'est une fausse piste lancée.
C'est une fausse piste.
Et donc, il courait sur le terrain. Il s'est déplacé sur le terrain.
C'est ce qu'il fait sur le terrain aussi quand il joue,
voilà.
de toute façon.
Non, mais il est 11 mecs, il peut pas y avoir de soucis.
Voilà. On va y revenir, bien sûr, puisque vous avez tous un avis sur la question.
Je l'ai donné dès samedi, 19h.
Pierre a un avis là-dessus. Maxime veut parler des blessés du PSG. Daniel, lui, veut parler de l'OM. Parce que Daniel ne fait rien comme tout le monde, évidemment. Donc, comme demain c'est le PSG, Daniel, lui, se dit, moi, je parlais de l'OM.
Moi, j'estime qu'il y a.
Mais t'as raison, mon vieux.
Un championnat avec d'autres équipes.
Exactement.
On a parlé de Lyon hier, puisqu'ils ont joué contre
Lille. Il y a Lille, il y a Rennes, il y a Saint-Etienne.
Dans un match très intéressant, qui m'a plu. Il y a d'autres équipes en Ligue 1, et surtout l'OM, ouais.
Et il y a même de la Ligue 2, figurez-vous.
Ça, en revanche, je ne vais pas dire que ça m'intéresse.
Puisque le match du soir, c'est Brest-Auxerre avec Xavier Grimaud qui est sur place. Salut Xavier.
Salut Gilbert. Bonsoir messieurs. 64 minutes de jeu à Francis Leblé. 1-0 pour le stade brestois. Le but est venu vite. Un magnifique but contre son camp de Tac Alfred qui la met dans la lucarne.
Belle volée.
Magnifique but, effectivement, sauf que c'est Tac contre Alfred. Son équipe. Tac Alfred et ses dreads, évidemment, mythiques.
T'as vu la volée, Gilbert?
Mais tu sais que moi, je suis halluciné par la carrière de Tac Alfred.
Dans quel sens?
Tac Alfred, c'est quand même un des mecs les moins techniques qu'on ait vu dans notre foot professionnel.
Mais il a d'autres valeurs.
Si il marque sur une frappe, c'est qu'il a fermé les yeux et c'est rentré.
Non, mais mine de rien,
pas être autrement. Pas écouté, Daniel, c'est contre son camp.
C'est contre son camp, Daniel.
Ah, donc. Ça, courant, mais ça te surprend.
Il avait peut-être fermé les yeux quand même.
Mais ce qui est dingue, c'est que ce type, il fait sa carrière pro, ça fait 10 ans qu'il est là, et il est là.
C'est étonnant que ça sorte, il y en a pas mal comme ça.
Ben oui, mais lui, enfin, je sais pas.
Mais il y a de la place pour ces joueurs-là aussi, qui ont d'autres valeurs que
crochet,
passe pas de jambes et, mais bien sûr, mais il en faut aussi.
Très bien.
Il en faut.
Bravo, Tac Alfred.
L'OM est champion d'Europe avec, un but d'un mec qui savait pas faire trois jongles. Et qui, techniquement, était, du niveau de Tac Alfred.
Je croyais que tu faisais une erreur par rapport à l'année dernière. Mais non, bien avant. Oui, d'accord. Ok.
Non? Mais pour de vrai. Mais
il avait d'autres qualités, bien sûr.
Qui en ont fait un joueur essentiel pendant une courte période, mais une période capitale.
Ouais.
Mais techniquement, il était archi bidon.
Courte période, il a fait une grande carrière quand même.
Non, de Basile Boli.
Non, il aurait pu durer plus longtemps, mais comme il misait énormément sur le physique, à un moment, il avait beaucoup de cœur. C'était un mec.
Attends, il démarre tôt.
T'as raison.
Je sais pas, mais je pense qu'il fait 13 ans de carrière.
Non, mais je m'étais bloqué sur la période d'OM, mais à Auxerre, il y a toute sa carrière.
Il joue l'Europe aussi.
À quel âge il démarre?
Je sais pas.
Il y a doute quand même.
De quoi?
Ah bah oui.
Non, t'as dit quoi?
À quel âge il démarre? Il y a doute.
Oh, mais attends, je tombe pas là-dedans. Moi.
Non, mais je dévoile rien. C'est même lui qui en parle.
Non, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Il y a eu des bouquins. Enfin, ça faisait partie. C'est un bouquin sur l'équipe de France. On racontait qu'il y a eu un joueur en équipe de France qui a joué alors qu'il avait sans doute 4-5 ans de plus que l'âge officiel.
4-5 ans, ça fait beaucoup. Ouais, donc effectivement. S'il a commencé, tu veux dire que s'il a commencé à 18 ans,
il a quand même fait une belle carrière, quoi qu'il arrive, au fond.
Bien sûr.
Bien sûr.
Alors, 32-16, bien sûr, on vous attend. On vous attend sur le hashtag RMC Live. On vous attend sur Direct Studio si vous voulez débattre avec nous. Bien sûr, Xavier, tu nous rappelles dès qu'il se passe un truc, hein, un autre but éventuellement.
Ouais. Je voulais juste vous raconter, messieurs, Cosser a failli égaliser. Penalty obtenu par les Auxerrois et Philippe Otto a voulu tenter une panenka complètement foirée et ça a été arrêté très facilement par le gardien brestois. Il aurait peut-être dû mettre une frappe un peu plus simple. 67 minutes de jeu.
Ta Calfred.
Dans Cavani, il a pas voulu prendre le risque de se claquer.
Et là, il était pas claqué du tout parce qu'elle est partie à 2 à l'heure, hein, sa panenka. 67 minutes de jeu, 1-0 pour Brest face à la GIA.
Alors, dans quelques instants, notre producteur Arthur Robert, ce soir, va m'amener la compo probable du... pas le meilleur, mais
on
pas loin.
On a que deux, donc.
Mais c'est Jérôme Thomas, le meilleur, quand même.
Ah, un des meilleurs, j'étais...
Mais je ne sais pas où vous voulez en venir.
En tout cas, vous allez voir, pour ceux qui nous regardent sur RMC Sport News, vous allez le voir rentrer sur le plateau avec une petite feuille, avec la compo du PSG de demain. Ça vient de tomber là, c'est tout chaud, donc
c'est beau, ça.
Il l'imprime, il nous l'amène. Donc on va pouvoir avoir tout ça dans quelques secondes. En fait, je comble un peu le temps qu'il arrive, parce que je voulais vous la donner en...
Mais comme il n'arrive pas...
Voilà, il a un problème d'imprimante peut-être, je sais pas.
Bon, il peut mettre la balancer par mail là où sur
l'écran. Ah voilà, il arrive, regardez, voilà, il est là.
On n'a pas d'autre moyen RMC là qu'un
gars qui... Oui, mais c'est comme ça, c'est à l'ancienne. Tu te rappelles Yves Bourouzi, décrocher un téléphone là. Ah, attendez, on m'appelle. Oui, alors la compo. Attention, Buffon.
La compo probable. On n'est pas sûr à 100% quand même.
Ah mais non, moi je fais confiance, on a des envoyés spéciaux à Manchester, ils sont trois. Hein.
Bon, allons-y.
Là, moi c'est la compo. Buffon, derrière, quoi Donc là, il nous lance une défense à 4.
Ouais. Mmh.
Silva, Kimpembe dans l'axe, Kerrer, Bernat sur les côtés.
Ouais.
Marquinhos, Verratti devant la défense. Non, il y a un problème. Non, c'est défense, c'est pas possible parce qu'il m'a mis Alves au milieu là.
Si, mais c'est
oui. Mais parce que tu joues avec une défense à 3 ou à 5 suivant le reste du match. C'est exactement ce que je vais te dire après.
Alves, couloir droit, Bernat, couloir gauche.
Donc c'est défense à 5.
Une défense à 3
ou à 5 si tu comptes
Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Verratti et un trio devant.
Non, t'es pas obligé de faire comme ça, Daniel.
Et ben moi je te dis que ce sera comme ça, tu verras bien.
Peut-être, ça peut être comme ça, mais moi
ça ne peut pas être autrement parce que Daniel Alves. Et comment ça va être autrement?
Eh ben, tu peux mettre un Marquinhos encore une nouvelle fois, mais c'est, alors c'est l'avis de mon, enfin, c'est mon avis tranché après.
Alors attention, parce que nos envoyés spéciaux insistent sur la défense à 4, hein. Donc là.
Ouais, mais on peut avoir notre avis quand même, c'est pas grave, on verra si on se plante ou.
Mais
ou
oui, si on avait pu cocher le PSG. Qu'en phase défensive, t'as Dani Alves qui aura quand même, ils vont se resserrer à 3 dans l'axe et Dani Alves prendra le côté. Enfin, de toute façon, peu importe.
Tu peux avoir Kerrer sur le côté aussi, hein, comme on a déjà
mec,
vu. Hein.
Le 11 mec, les 11 mecs, on les connaît.
Oui, les 11 joueurs, on les connaît, ça, je suis d'accord avec toi.
C'est ça qui est important.
Et tu peux avoir Marquinhos qui redescend entre Silva et Kimpembe aussi.
Ouais, c'est ça, le rôle hybride.
C'est ce qu'il fera souvent, effectivement. Oui, bien sûr.
Bon, donc
le 11 est sans surprise.
Et donc j'ai pas cité Draxler, Di Maria et Mbappé.
Et
évidemment.
Mbappé devant, voilà.
Alors, en fait, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est effectivement, allez, sur deux ou trois joueurs, la position réelle qu'ils vont adopter et le plan de jeu qui va être celui de Thomas Tuchel.
En phase défensive, ils seront à 3 dans l'axe. C'est ce qui a le mieux marché avec le PSG cette année. Il peut pas en être autrement. Surtout à l'extérieur, surtout quand t'as aussi peu de certitude sur tes valeurs défensives.
Oui, mais 3 dans l'axe, Daniel. Alors ça peut être comme tu dis avec tout le temps Kerrer, Kimpembe et Silva. Ou alors ça peut être avec Marquinhos dans ce rôle hybride qui descend entre les deux, Kimpembe et Silva, Kerrer sur le côté, Bernat, donc tu joues à 5 quasiment quand tu subis.
Petite précision.
Ou à 3 quand tu subis pas.
Lors des derniers entraînements, la défense à 4 a été bossée au camp des loges la semaine dernière et la défense à 3 ce soir à Old Trafford.
Ouais, donc on n'en sait pas plus finalement quoi.
Voilà.
Ou peu importe, tu sais, les 11 mecs qui sont sur le terrain.
Je suis pas sûr que ça valait le coup de faire rentrer Arthur Robert en plateau quand même.
Ça a permis de voir son t-shirt magnifique de la chorale de son village.
Ah moi j'ai pas fait attention.
T'as pas fait attention?
Ah regarde, on peut le faire revenir.
Le premier avis du soir, en tout cas, concerne le PSG, c'est le tien.
Bon, on est en plein dedans. Ouais.
Pierre, jingle du croc.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur.
D'ailleurs, Jonathan vient plus depuis. Je sais pas si t'as remarqué.
Ouais, je l'ai recroisé une fois. Mais...
Alors,
on est en plein dedans. C'est exactement ce qu'on dit, sauf que moi, je voulais dire pourquoi je jouerais, alors pas forcément comme Daniel le prédit, et ce qui sera peut-être la réalité, mais avec ce Marquinhos en rôle hybride comme il a pu le faire contre Liverpool, on voit Manchester tous les week-ends jouer en Angleterre, et il y a une chose qui est frappante, et tous ceux qui voient Manchester vont être d'accord avec moi, c'est qu'ils ont une faculté de démarrer les matchs très fort, avec un pressing très haut, ça dure une demi-heure, ça dure la première période. Alors il y a des phases, hein, ils sont pas en pressing constant pendant 45 minutes, mais il y a des vrais temps forts assez longs où Manchester, dans son plan de jeu, dans ses principes de jeu, presse très haut et va harceler l'adversaire. Vous reprenez tous les matchs de Manchester, il y en a les trois quarts, pour pas dire les huit dixièmes, où Manchester marque très tôt dans le match et fait la différence en première période. Donc pour ça, il va falloir un PSG pour moi qui va pouvoir subir, être costaud, ce qui est peut-être pas la force du PSG défensivement sur cette saison. Et pour ça, je mets moi Marquinhos en rôle hybride derrière pour pouvoir défendre à 5. Un milieu devant avec Alves et Verratti et Draxler, Di Maria qui descendent sur les côtés en phase défensive et Mbappé devant. Ce qui te permet alors d'avoir un rôle essentiel pour Verratti et Alves dans les sorties de balles. Ça va être en tout cas si le plan de jeu est celui-là avec un Manchester qui presse pour se sortir de ce pressing de cette forte densité, ils vont avoir un rôle avec leur vis et leur technique essentiel. Si eux sont très bons là-dedans dans cette première période, tu vas avoir les 2-3 coups à jouer avec des contre-attaques pour Mbappé. Et en deuxième période, très souvent, tu vois Manchester qui, on en reparlera peut-être avec Julien tout à l'heure, il confirmera peut-être, qui est beaucoup plus en bloc bas parce qu'ils ont plus les moyens d'aller exercer ce pressing, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, tu presses pas voilà tout un match comme ça. Et là, il va falloir un second PSG qui va être capable de jouer plus haut, d'avoir beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. Là, l'absence de Neymar peut avoir un vrai rôle là-dessus, et qui en même temps va devoir assurer un équilibre avec une concentration quasi parfaite, parce que c'est là pour moi que Manchester va être plus dangereux à la limite. C'est peut-être pas quand ils vont être très haut à presser et avec un peu moins d'espace à négocier pour eux, mais quand ils vont être en bloc bas et où à la récupération de balle, Pogba qui a multiplié ce genre de passes et ce genre d'actions pour un Rashford, pour un Martial, etc. Donc finalement, il va falloir deux sortes de PSG différents, et dans les deux sortes de systèmes où ils vont jouer, il va falloir qu'ils excellent. C'est ce que réclame ce genre de match, hein, finalement. Moi je suis pas surpris, sauf que les absents sont importants, notamment pour le PSG en seconde période, pour moi, l'absence de Neymar.
Alors, avant que Daniel et Maxime donnent leur avis, puisqu'on est dans les considérations tactiques là que tu développes, écoute Tourelle, il en a parlé tout à l'heure, et lui il estime que le PSG va devoir, surtout en début de match, jouer bas. On écoute.
Il y a des moments demain où nous sommes très bas, parce que j'attends Manchester United très offensif, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'attaquants, et dans un match comme ça, on doit jouer dans toute situation en top niveau. C'est comme ça.
J'avais pas entendu la conf de presse, tu vois, mais c'est ça. Oui, ça t'aura subir. Mais en début, enfin, Manchester, c'est assez criant à leur match. Ils sont capables de faire une demi-heure, un tout petit peu plus. Après, c'est
il y a plus. Pour conclure ton avis, si le PSG arrive à la mi-temps, par exemple, à 0-0.
Oui.
Toi, tu considères
tu peux même arriver à la mi-temps avec une belle surprise où si tu exploites très bien les 2-3 ballons que tu auras exploités en contre et où Mbappé aura pour moi beaucoup plus d'espace que peut-être probablement en seconde période, c'est peut-être là où t'as ta carte à jouer. Ouais.
Alors, Daniel, avant d'avoir l'avis de Maxime, est-ce que tu es d'accord avec Pierre ?
Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est un peu ça. Il y a effectivement un problème qui est en plus l'idée de mettre Alves dans le couloir. Il est plus capable de répéter les courses et de défendre. Donc, le positionner au milieu avec toujours dans mon idée de défendre à 3, c'est Marquinhos qui recule. Donc, ça pousse un petit peu Kerrer.
Et dans le couloir, tu as raison. Il y a aussi autre chose, c'est que moi j'ai très envie d'avoir quelqu'un qui va aller provoquer Luke Shaw, qui va aller chercher. Alves n'ira pas dans ce couloir là.
Dans les couloirs,
Di Maria peut le faire un petit peu, même s'il rentre après grand monde, beaucoup plus.
Parce que Di Maria, il va bien falloir que quelqu'un occupe un petit peu le côté gauche. Mais bon, je pense qu'il y a quand même, au coup d'envoi, 6 joueurs à vocation défensive qui sont annoncés quand même. Hein. Donc c'est plutôt une équipe qui y va pour attendre et éventuellement contrer, pour en tout cas profiter d'une sortie de balle de Verratti. Autre inconnu, combien de temps peut-il tenir ? Parce que là, il va y avoir l'intensité, elle va être forte. Donc je pense qu'on doit miser sur 60 minutes d'autonomie.
Le plan idéal,
de idéal Verratti, c'est ça. Hein, et s'il est bon, et c'est demain qu'on attend qu'il soit bon, c'est lui.
C'est l'heure de jeu où il peut être bon.
C'est lui
sous
qui
le pressing
capable,
mancunien, et après derrière tu fais
c'est lui qui va être capable de sortir un ballon et de l'envoyer sur les mecs qui peuvent contrer.
Exactement.
Voilà. Maintenant, plus globalement, au-delà de l'aspect tactique, j'espère que tout le monde est prêt et que Tuchel a calmé les joueurs et leur a ôté une part de stress qui, je trouve, est de plus en plus importante autour du club à chaque fois qu'arrivent les matchs de Ligue des Champions. Cette obsession vire à quelque chose qui est difficilement supportable d'un point de vue nerveux pour eux. C'est en tout cas le sentiment qu'il donne, et la nervosité, même qu'on sentait chez Tuchel ces dernières semaines, commencer un petit peu à me gêner. J'espère qu'il va trouver les mots pour que les mecs fassent un match à la hauteur de la Ligue des Champions. Donc ça veut dire avec beaucoup d'intensité, donc ça veut dire prêt à la bagarre et un match d'efficacité. Je rappelle qu'on est un pays qui peut donner une forme d'exemple parce qu'il a été champion du monde en se bagarrant, plus qu'en étant maître du jeu. Donc ça veut dire qu'on peut le faire, c'est-à-dire d'obtenir un résultat en étant efficace devant, derrière, et en réussissant à subir et à sortir et
se bagarrer, c'est peut-être un peu réducteur. T'as raison, il va falloir le faire.
C'était principalement ce qui était fait.
Je rajouterais de façon très organisée et très efficace.
Forcément. Je suis pas en train de parler de MMA, je suis en train de parler de foot.
Non, mais bagarrer, c'est des équipes qui font bien, mais de façon désorganisée, ça dure jamais très longtemps, et surtout à ce niveau-là.
Oui, donc c'était sous-entendu, Pierre. Pardon, s'il faut préciser même ça. Oui, forcément, tactiquement, tu dois être organisé et du moment où t'es dans ce genre de match-là qui te manque des mecs, pour moi, tu n'occultes pas toutes tes chances parce qu'il te manque des mecs. Et surtout, moi, dans l'approche de cette rencontre, j'ai l'impression trop souvent qu'on oublie, et c'est quand même la composante essentielle de ces matchs-là, c'est un match aller-retour.
Bien sûr.
Ne jamais oublier ça. C'est un match aller-retour. Souvent, ces matchs-là, on oublie, quand tu as des regrets dans le match retour, souvent tu oublies de te faire un petit flashback sur ce qui s'est passé à l'aller, et souvent c'est dans l'aller que tu trouves les clés du problème qui s'est posé à toi au retour. Là, on sait qu'en plus, c'est une particularité, c'est les 3 semaines qui ont coûté cher, peut-être il y a 2 ans dans le match contre le Barça, parce que c'est long, t'as le temps de te refaire, il y a une approche psychologique qui est différente. N'oublie jamais que le match de demain, il y a énormément de résultats, au vu des forces en présence pour les Parisiens, énormément de résultats qui peuvent être favorables. 0-0. 1-2, 2-2. Donc tous les matchs nuls.
C'est quoi, même une défaite en 0?
Mais j'y viens, Pierre.
2-1.
Pardon. Tous les matchs nuls. Tous les matchs nuls. On va dire, pour ce qui peut communément se faire le plus dans le foot, ça te fait 3 résultats. Je vais faire des probas, attention.
Oula. Attention. À mon avis, tu vas l'arrêter tout de suite.
Moi, j'ai eu du mal à compter jusqu'à 7 tout à l'heure.
3. OK. Je te laisse. Ensuite, tu as les défaites. 1-0,
courte.
2-1. OK.
Et 2-1, c'est mieux qu'un 0.
Oui, et je parle évidemment pas
3-2.
Ouais, mais ça c'est moins commun dans le foot. Moi, c'est, je veux bien, à Liverpool, il y avait eu 3-2.
Oui, par exemple.
T'avais perdu 3-2 en faisant un match épouvantable.
Aujourd'hui, on n'étant pas costaud dans les phases où tu étais dominé.
Ouais, limite, tu sors à 3-2 demain à Old Trafford, tu te dis, tu conclus très bien, dans 3 semaines, c'est possible.
Voilà. Si tu veux bien conclure, hein. Je veux dire,
possible de tes moyens. Je vais rendre la parole à Maxime, parce que ce que tu nous as dit là-haut et qu'on a tendance à oublier.
Ne dis pas ce que Maxime te dit à l'antenne.
Si, parce qu'on peut le dire à l'antenne aussi.
Non, parce que c'est son tour, là. Je la connais ta vieille fin, Pierre. Non, mais je veux juste dire un truc avant de donner la parole à Maxime.
Allons-y, Max, vas-y.
Maxime, est-ce que tu es d'accord avec Pierre?
Alors, oui et non. Parce que dans le match que vous prévoyez et que vous décrivez pour demain, vous pensez que Paris va subir. Pourtant, Manchester, c'est pas quand ils ont le ballon qu'ils sont les meilleurs. Pour reprendre les derniers matchs de United, ils marquent sur des phases rapides, en contre-attaque. Quand ils ont le ballon, ils savent pas trop comment faire, et en général, ils sont contre assez facilement.
C'est pour ça que je t'ai dit que finalement, Manchester, pour moi, était plus dangereux dans le plan de jeu que je t'ai dit, en deuxième période.
En deuxième.
Voilà, sur cette configuration.
Mais du coup, en première mi-temps, je sais pas qui a vraiment envie d'avoir le ballon et qui n'a pas envie de l'avoir dans ces deux équipes-là. Parce que, mine de rien, du coup, Touré est en train de faire une équipe pour exploser en contre, et Manchester joue de la même façon. Donc au final, qui va prendre les clés du match?
Sauf que Manchester, si t'as vu tous les matchs qu'ils font là sous l'ère Solskjaer, les débuts de match, je te jure, ils sont pressing haut, etc.
Ils vont pressing haut.
Je pense pas qu'ils vont changer ça, notamment à la maison. Le premier match aurait été au Parc, j'aurais été moins sûr de ça.
Mais si tu prends le match contre Fulham qui a eu samedi à 13h, alors oui, ils pressent haut, c'est sûr. Oui, ils vont vite vers l'avant. Mais quand ils ont le ballon dans les 30 derniers mètres,
Maxime, tu oublies un truc,
c'est un match. Enfin, Fulham, c'est un match.
C'est un match à part parce que Fulham, ils sont vraiment pas terribles.
Maxime, tu oublies un truc, c'est que dire qu'ils sont plus efficaces quand ils jouent en transition rapide, ce qui est commun aujourd'hui dans le foot, puisque la plupart, 80% des équipes jouent comme ça de toute façon, même plus. Donc, dire qu'ils sont plus efficaces comme ça ne veut pas dire pour autant que leur intention n'est pas d'essayer de faire le jeu.
Bien sûr.
L'intention de Solskjaer, depuis qu'il est arrivé, c'est de dire on essaye de redevenir le Manchester de mon mentor, donc de Ferguson. Donc ça veut dire qu'on doit s'imposer, et qui plus est à Old Trafford. À la limite, il pourrait être dangereux au Parc des Princes en cas de courte défaite pour Paris ou en cas de courte victoire pour eux, 1-0, 2-1, ce genre de choses-là. Là, il pourrait être dangereux. Là, il faudrait être très méfiant justement à leur phase de contre-attaque parce que là, je pense pas qu'il viendrait dans ce cas-là au Parc avec l'idée de faire le jeu. Mais à Old Trafford, cette tradition très forte à laquelle tenait Ferguson et que Solskjaer veut reprendre,
de faire
c'est
le jeu
que
à
de
la
toute
maison,
façon,
bien sûr.
Tu dois jouer haut.
Imposez-toi.
Après,
sûr,
ça veut pas dire, et Pierre le faisait remarquer justement, que même s'ils le font, ils sont habiles et qu'ils sont, ils sont pas plus habiles au final quand ils sont un peu poussés et qu'ils sortent. Oui, je pense qu'ils sont pas assez, ils ont pas assez travaillé sur leur jeu. Le changement d'entraîneur a fait que il y a pas eu assez de travail de fond pour que ce soit une équipe de possession habile sur jeu placé, tout ça.
Oui, non, il faut peut-être un ou deux joueurs en plus.
Ils vont démarrer le match avec la confiance qui les habite ces dernières semaines, avec l'idée de faire le jeu, avec l'idée de s'imposer, avec l'idée de bousculer les Parisiens, d'obtenir des corners, d'obtenir.
On aura Julien Laurence tout à l'heure, Daniel, il donnera l'équipe de demain d'ailleurs.
Ce dont je voulais parler, tu vois, mais c'est Maxime qui nous l'a soufflé. C'est la suspension probable en cas de carton jaune de Kerrer et de Verratti. Parce que tu parlais du match aller-retour, Daniel, et pour moi, ça, enfin, on en discutait avec Max, ça a une vraie importance, hein, parce que si Verratti, on peut penser qu'à Old Trafford, il soit capable de prendre un carton jaune.
C'est pas impossible.
Il y a rien de moins fou. Franchement, c'est même
et
assez
Kerrer,
fou si on prend
pas, c'est pas impossible non plus. Tu peux te retrouver tout de suite avec deux joueurs essentiels, on le voit aujourd'hui, essentiels en moins.
Sofiane est là au 32-16.
C'est parti des matchs aller-retour.
Et oui. Salut Sofiane.
Oublier que c'en est un.
Sofiane. T'as remarqué qu'on a déjà tout expliqué ce qui allait se passer demain. C'est ça la force de l'after.
Ouais, j'ai vu, là. En plus, il y a Daniel, là, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Tout ce que j'allais dire, en fait, il a un petit peu développé, en fait.
Mais la priorité, elle est ici.
Est-ce qu'il y a un truc qu'il a pas dit que tu veux rajouter?
En fait, moi, ce qu'il a rajouté, c'est un petit peu Tuchel. C'est-à-dire que Tuchel, moi, je commence à, au début, j'étais vraiment emballé par lui. Mais là, je commence un petit peu à en revenir parce que j'ai l'impression qu'il, dans sa communication, il est en train de baliser. C'est comme si Paris avait déjà perdu contre Manchester. Parce que là, tout à l'heure, en conférence de presse, il commence à nous parler d'histoire.
Oula, t'entends pas, Sofiane. Est-ce que t'es là?
Oui.
Vas-y, continue, on t'a retrouvé.
Oui, voilà. Donc je disais que Thomas Tuchel, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à baliser. J'ai l'impression que la communication du Paris Saint-Germain, il s'exprime un petit peu comme un consultant. C'est-à-dire que demain, ça va être difficile, on a tel mec qui nous manque, on a des blessés, etc. Alors que le sport de haut niveau, tout le monde le sait, ça joue surtout au niveau du mental et au niveau de l'état d'esprit. Donc demain, je pense qu'il faut aller, c'est pas quand même une équipe de nationale qui va se déplacer à Manchester, c'est quand même le Paris Saint-Germain. Ils ont des joueurs de talent quand même, malgré les blessures, ça c'est un fait indéniable. Mais il faut aller pour chercher un résultat, d'autant plus que...
Ah bon, allez, Sofiane, mon pauvre, t'as un problème de télé.
C'est dommage, on a raté le d'autant plus.
D'autant plus que, voilà.
Sur quelque chose d'important.
Sur Direct Studio, on me dit, Daniel qui parle de maths, il sait même pas combien fait 7 x 8.
Je le savais, t'avais besoin de me montrer. Attends, il y a quand même des trucs de base que je sais, c'est vrai, t'as des multiplications, faut pas exagérer.
Je lui montrais, voilà.
Faut pas exagérer.
Tu cherches un piège, 56.
Après,
franchement, Cheval, c'est exagéré.
Non, mais moi, c'est ce qui est proba, tous ces machins-là, tu vois.
Maxime, tu veux dire un truc?
Ouais, pour revenir sur ce que l'auditeur disait, sur la communication de Tourelle tout à l'heure, c'est logique qu'il se... En fait, il y a rien de surprenant dans sa com aujourd'hui à dire que pour United c'est plus facile, ils ont plus l'habitude que nous, etc. De toute façon, oui, c'est vrai que le PSG n'a pas fait de 2001, voire mieux. Mais c'est une façon de sortir un peu la pression de ses joueurs et de la mettre sur Manchester plutôt que sur ses joueurs en leur disant, les gars, ce que vous allez faire là, c'est peut-être historique de pouvoir d'enclencher la machine et d'aller peut-être au bout cette saison.
Et puis
c'est des éléments de langage dans la com, en fait, de dire
la pression raison, chez nous. C'est sûrement, enfin, s'il avait le discours complètement inverse en disant on vient ici pour gagner parce qu'on est sûr de nous, on le traiterait d'avoir un manque d'humilité.
Aucun entraîneur ne tiendrait ce genre de discours.
En plus, bien sûr,
tu vas pas ultra fort comme ça, la fleur au fusil.
Moi honnêtement, dans ce qu'il dit, il y a rien qui me choque.
Dans quelques instants, on est de retour. On va parler des blessés du PSG, mais d'abord un petit détour par Brest. Brest, Auxerre, où en est-on, Xavier?
On est entré dans les 5 dernières minutes, toujours 1-0 pour le Stade Brestois, toujours avec ce CSC de Takalfred et les Brestois qui ont beaucoup d'occasions, notamment Gaëtan Charbonnier, le meilleur buteur de Ligue 2, qui a eu 1, 2, 3, 4 face à face avec Mathieu Michel et à chaque fois il a buté sur le gardien. 1-0 toujours pour les Finistériens.
Voilà, et je crois qu'on a vexé un peu du monde avec Takalfred tout à l'heure. On m'a dit arrêtez, Takalfred était énorme à Reims, me dit Nono Rémois.
Ouais, en Ligue 2 alors.
Très bien, non mais Très bien, je réhabilite avec Alfred. Dans quelques instants, en tout cas, l'After revient avec toujours le PSG au programme et ensuite la Ligue 1, le reste de la Ligue 1, puisque Daniel veut parler de l'OM. C'est tout de suite au 32-16 avec vous.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, c'est l'After, bien sûr, avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducroix, avec Maxime, notre dernier finaliste de l'After Academy. Tiens, avant qu'on parle un peu de toi, Maxime, je vous donne le programme de l'After cette semaine. Demain, horaire exceptionnel, et ce sera comme ça pour tous les matchs des clubs français en Ligue des Champions. On va jusqu'à 1h du matin demain, donc le début de l'After, 23h, à la fin de Manchester PSG, et donc jusqu'à 1h avec vous, avec nos envoyés spéciaux à Manchester, pour analyser le match du PSG et puis l'autre match de la soirée. Mercredi, bon, after normal après les matchs de Ligue des Champions, et jeudi un grand after de 3h de 21h à minuit, puisque Rennes joue à 19h, donc on analysera le match de Rennes face au Bétis, et puis on vous réserve quelques surprises pour l'after de jeudi, vous allez voir, ça va être sympa, je vous dis pas tout. On a notamment un comeback dans l'after jeudi soir.
Ah oui.
Eh oui, un petit comeback sympa, vous verrez, ce sera jeudi soir à 21h. On dit rien.
Comeback d'autres.
Je suis pas au courant.
Un comeback. Un comeback.
Top.
Voilà.
Ah, t'en as dit beaucoup déjà.
Bon, Maxime, alors, Maxime, toi, t'as la particularité d'être de Nancy.
C'est ça.
Alors, comment est-ce qu'on peut aimer le foot et être de Nancy?
C'est compliqué, tu regardes pas.
Dans le chambre, déjà. Évidemment.
Il y a eu des belles périodes.
Bah oui.
Il y a eu des belles périodes. Il y en a eu une
dans les années 2000, début Nancy, 2000. Donc, très bien.
Mais bon,
oui, je suis tincent, Daniel.
Nancy a gagné la Coupe de la Ligue il y a pas si longtemps. En 2001, un peu plus de 10 ans.
C'est Nice, ouais.
Ok.
Et cette année,
avec le célèbre Kim, attaquant de Nancy.
C'est ça.
Oui, tu l'as.
Et Zerka aussi, ouais, qui marque en finale.
Eh oui, Monsef Zerka.
Zerka. À cette époque-là, on se demandait si Nancy allait accrocher la Ligue des Champions ou pas dans la dernière journée du championnat.
Mais ouais, Daniel.
Comme quoi.
Une belle période. Bah oui.
Mais maintenant.
Ça l'a pas marqué.
Non mais
pas du marquer le club non plus. Vu la situation actuelle,
on peut le voir partout.
Mais moi j'aime bien Nancy, moi j'aime bien Bachelot.
Il y en a, ils peuvent sortir avec des boudins et croire que c'est des jolies filles.
Non, mais tu peux pas mettre tout le monde au même niveau et les juger pareil. C'est pour un club comme Nancy, ce sont des belles périodes.
Non, puis après quand tu vas à Pico aujourd'hui, tu sais ce que tu vas voir aussi. C'est.
Oui, c'est pas.
Tu vas des fois voir les matchs là-bas.
Ouais, ça m'arrive. C'est marrant entre avec les copains. C'est.
C'est un beau stade d'ailleurs, moi j'aime bien.
Oui, c'est sympa.
Le stade est sympa.
Il y a un petit peu de monde en plus.
Ouais. Nancy, la vraie seule période, c'est la période Platini, Rouillé et compagnie.
Ah bah oui, c'est sûr.
Mais parce qu'après les autres périodes ne t'intéressent pas. Mais pour un club comme Nancy, il y a eu des périodes plutôt correctes.
Non, mais celle qui est marquante pour.
Bah oui, voilà, marquante, bien sûr.
Nancy, c'est la période fruitée.
Non, mais si tu
la période fruitée,
même Angoulême, ils vont se trouver une bonne période. Ça veut rien dire. Je parle de période marquante. Marquant pour tout le monde, si c'est marquant pour eux,
Angoulême, je suis pas sûr qu'ils aient joué en Ligue 1, etc.
Pourquoi
on a dévié sur Angoulême?
Moi,
je sais pas, c'est Daniel qui prennent Angoulême.
Je parle de choses qui sont marquantes pour tout le monde, pas juste pour les gens du cru.
Mais parce que le problème de Nancy, c'est d'avoir gagné la Coupe de la Ligue et pas la Coupe de France. Si t'avais gagné la Coupe de France, ça aurait été un peu plus.
La Coupe de France, ils l'ont gagné en 78.
Oui.
Voilà.
Récemment.
Avec la génération Platini.
Quitte à gagner un deuxième trophée, il aurait mieux fallu gagner la.
Parce que, du coup, je me penche sur le palmarès de Nancy.
Coupe de France, Coupe de la Ligue.
Juste, il y a que ça.
Ouais, il y a que ça.
Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre?
Bah, un petit titre de Ligue 2, peut-être.
Bah, non,
là. Ah, si, un titre de Ligue 2, il y a quelques années.
Quand
ils sont remontés en Ligue 1.
Ils sont champions quand
champions de Délé en 75.
Et tiens, non, ils sont pas champions quand ils remontent là.
Si,
moi j'ai 75 là. Ah, peut-être.
Non, 2015-2016, je sais plus.
Enfin, c'est le club qui a vu débuter Platini, ça suffit.
Voilà, enfin, c'était la petite parenthèse Nancy.
Exactement.
Ouais. Voilà, enfin, toi tu suis tout le foot,
Oui, en général.
Pas exclusif à Nancy Lorraine.
Non, pas du tout. Loin de là.
Bah, sinon, il y a pas loin.
Non.
Mais enfin, arrête avec Nancy, c'est incroyable.
C'est gratuit.
Bon, d'ailleurs, c'est fini à Brest, tiens. Ça ne permet plus de fermer la parenthèse Nancy, parce qu'on va se faire des amis là-bas.
Brest aussi a eu une belle période, n'est-ce pas?
Brest au Serre. Bah, attends, tu rigoles ou quoi?
Ils ont vu les débuts de Nolabru.
Goy Cochia dans les cages et tout.
Très bien.
Et oui, puis,
Charlie Shaker.
Le nombre de joueurs que Brest a sorti.
Xavier, c'est terminé, Brest au Serre.
Et l'année de la remontée en Ligue 1, ils sont leaders fin octobre, après une victoire 2-0 face à Saint-Étienne, faut pas l'oublier, celle-là.
Mais
je sais bien, c'est Bruno Grougy aussi, plus récemment pour les supporters à Brestois. Voilà, enfin bref, pour le match ce soir, la victoire Brestoise 1-0, le magnifique CSC de Tac Alfred dans la lucarne qui va suffire aux Finistériens pour revenir à un point du FC Metz, le leader, et reprendre 6 points sur le 3e Lorient. 1-0 pour Brest. ce soir face à la GIA.
Ça y est, les Nancéens sont là, ils commencent à gueuler. Je vous préviens, messieurs les Nancéens, on fera un soir votre équipe type et votre équipe pipe, comme tous les autres grands clubs de légende du foot français, c'est promis. L'avis de Maxime. Est-ce qu'on a un jingle, Maxime? Jingle, Maxime.
Oh mon Dieu, de bordel de merde, que c'est bon! Bordel! Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, hein, une série comme ça. Vraiment, je suis heureux.
Ah, c'est tout? Moi, je pensais qu'il allait y avoir du Nancy. Bon, bah, je pense que notre réalisateur était fatigué aujourd'hui, il avait envie de rien foutre. Donc c'est il a recyclé un vieux truc.
Il attendait la compo, quoi.
C'est doux, hein, pas trop de rapport avec.
Oui, aucun rapport. C'était nul. Tu voulais parler des blessés du PSG?
Ouais, en fait, Daniel a commencé à en parler hier soir en fin d'émission. T'as absolument stoppé le débat à ce moment-là.
Pas du tout.
Parce qu'il fallait rendre l'antenne, si.
Ah bon, je me souviens pas.
Et en fait, moi, j'étais entièrement d'accord avec Daniel pour dire que ce n'est pas que le hasard si le PSG a autant de blessés actuellement. Je trouve que le climat autour du club, depuis la blessure de Neymar notamment, est complètement délétère. On voit un Tourelle qui est complètement stressé sur sa ligne de touche dès le coup d'envoi, car il a peur de perdre encore des joueurs dans son effectif. Et je pense qu'il transmet ce stress-là à ses joueurs. Et inconsciemment, ça provoque quelque chose chez certains joueurs notamment. Par exemple,
la blessure, t'y crois?
Complètement. Pour moi, un joueur qui est pas dans un bon environnement mental ne sera pas au meilleur de sa performance, en tout cas, et peut jouer sur la blessure.
Donc en gros, la crainte de la blessure provoque la blessure.
Complètement. Par exemple, Thomas Meunier, on peut dire c'est un coup, mais pour moi, il y a un vrai ascendant psychologique sur cette blessure-là. Thomas Meunier, il sait pas même en pleine possession de ses moyens. Il sait pas s'il va être titulaire à Manchester.
Ouais, il y a même de grandes chances qu'il le soit pas, en vrai.
Voilà. Et du coup, je pense qu'il a envie de montrer qu'il est là, il peut aller au combat, et du coup, il peut, ce choc, il est évitable. Parce que il veut aller au mastic. Mais s'il prend un mètre de recul, il attend que le mec redescende, et là, il va prendre le ballon, son taf, il est fait. Mais là, il veut aller au mastic, et là, il prend le coup. Et c'est là que le hasard, il joue.
Faut plus que Neymar dribble pour pas prendre de coups. Faut même plus des fois qu'il joue. Faut mettre tout le monde sur le côté. Faut pas que Meunier, qui est défenseur quand même à la base, n'aille au casse-pipe.
Moi, je pense pas qu'il dise ça. C'est important ce qu'il dit.
Je dis pas qu'il faut pas aller au casse-pipe. Je dis que si t'es anxieux par rapport au match,
la façon d'y aller, t'es conditionné psychologiquement dans la façon.
Je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez jamais joué des matchs de Ligue 1. À un moment donné, tu peux pas juste comme ça dans ton match changer ta façon de jouer tes duels. À un moment donné,
moi je rejoins Maxime sur un.
Tu joues comme tu as l'habitude de jouer.
Depuis le match contre Strasbourg.
Justement, ils ne jouent pas comme ils ont l'habitude de jouer.
Là, le choc, il y a rien qui me dérange.
En fait, tu ne comprends pas ce qu'on dit. C'est ça le problème.
Classique.
Non mais regarde, tu ne comprends pas ce qu'on dit.
Non mais je vais matérialiser différemment. Parce que moi, je suis assez d'accord aussi.
Justement, non. En fait, tu ne comprends pas.
Remonte au match.
Je te dis que tu ne comprends pas. On ne dit pas ça en fait.
Remonte au match de Strasbourg de Coupe de la Ligue.
Vous exprimez mal alors, parce que c'est ce que vous dites depuis.
Depuis ce match, en fait.
Lequel?
Depuis le match que Neymar se blesse. Depuis ce match, donc c'était début janvier. Mi-janvier. Depuis ce match, en fait, les mecs jouent pour ne pas se blesser.
Exactement.
Ils jouent avec le frein à main.
Moi, c'est le sentiment que j'ai.
Soit ils jouent trop, soit ils jouent pas assez, mais ils ne jouent pas normalement. C'est ça. Toi, ce que tu dis, c'est qu'ils devraient jouer normalement, je suis d'accord avec toi, mais ils ne jouent pas normalement.
Je ne vois pas là où Meunier joue différemment son duel.
Justement, je te dis qu'il devrait le jouer différemment. Et de pas aller au mastic alors que t'as le match contre Manchester dans 4 jours.
Il a tendance à surjouer parce qu'il faut qu'il prouve pour.
Mais c'est comme ça depuis des années, Pierre.
Mais c'est comme ça partout.
La première année contre Chelsea, là, il y en avait 5 ou 6 de blessés, des joueurs parisiens.
Bien sûr.
C'est un monsieur qui se qualifie d'ailleurs. Un peu à l'arrache.
C'est pour ça qu'on parle un peu de poisse. Parce que ça a toujours été comme ça.
Mais c'est pas la poisse. C'est une obsession. C'est une obsession mal gérée, une obsession malsaine. Le climat, en fait, ce club ne sait pas gérer le climat qu'il y a autour. Ils doivent gérer le climat psychologique du club.
Ça, c'est une chose. De là à dire que les blessés sont la conséquence de ça, moi, je suis pas d'accord. Global.
Le PSG, et alors, bon, peu importe si c'est compris ou pas compris ce que je vais dire. On va prendre un exemple.
Si c'est compris.
Oui, mais comme il y a des gens qui veulent pas trop réfléchir au-delà de deux phrases. Consciemment ou inconsciemment, je sais pas s'il l'avait fait exprès à l'époque, mais quand Mourinho arrive à l'Inter, à la fin des années 2000, il arrive dans un club qui est probablement le plus détesté en Italie. Il s'adapte complètement à cette situation. Il fait en sorte que le sentiment général que suscite ce club, il l'a refait à Chelsea après. Mais sauf que lui, c'est pour ça que je dis, on sait pas trop si c'est conscient chez lui, parce qu'il le fait un peu partout. Et c'est pour ça que des fois, ça ne marche pas quand il le fait dans des clubs qui n'ont pas cette nature. Mais quand ça tombe sur un club qui a cet environnement culturel, c'est parfait. Parce qu'il arrive à te conditionner dans une approche mentale, nous contre tous. Ce qui fait que les mecs ne cherchent pas à être aimés. Le club ne cherche pas à faire des courbettes, à ceci, à cela. Il sait qu'il va être dans une adversité permanente et il est prêt au combat. Le PSG approche mal le foot depuis que les Qataris sont là. Je l'ai dit mille fois ça. Ils ne comprennent pas l'environnement dans lequel ils sont. Ils devraient savoir, par exemple, tu sais, tout ce qui s'est passé autour de Strasbourg, ce qu'on a réentendu avec l'entraîneur de Villefranche. En fait, au lieu de faire de ça une force, parce qu'en fait, on n'a pas à déplorer ça. Et c'est là que je veux que tout le monde comprenne. Il ne faut pas déplorer ça. Moi, je ne veux pas déplorer le fait, le PSG s'est pas aimé et tout. On s'en fout. Il y a un contexte culturel, sociologique en France autour du PSG. Tout ce... Eh ben, tu dois faire avec. Le PSG n'a jamais été réellement aimé. Mmh. C'est encore pire depuis 7 ans. Donc, tu dois faire en sorte de vivre avec ça et de transformer ça en force. Donc, si l'entraîneur, parce que moi, on me dit que Tourelle est en train de découvrir que autour de lui, l'environnement comme ça n'est pas méga favorable au PSG, ou mais il devrait le savoir dès qu'il signe ça. Si personne lui a expliqué, c'est une faute. Tout ça, les joueurs doivent le savoir. Parce que moi, j'imagine qu'un Neymar, quand il a entendu tout ce qui est sorti, ou son père, ou machin, les mecs, ils ont dû dire, mais où est-ce qu'on est là? C'est normal, toutes ces choses, de lire toutes ces machins, tout ça. Oui, oui. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas transformer ce contexte-là en une force et donc pour faire front face à l'adversité.
Et donc, pour toi, que doit faire le PSG aujourd'hui pour faire front
le
face
PSG,
à ça?
Le PSG, là tu me parles d'un problème conjoncturel qui est le match de Ligue des Champions. Mais globalement,
globalement,
du club, eh bien le président doit avoir conscience de ça, l'entraîneur et les joueurs. Donc en fait, il faut tout simplement leur raconter déjà l'histoire et leur raconter, parce qu'aujourd'hui le foot, il est pas toujours, surtout quand il est étranger, il est pas toujours au courant de comment fonctionne le pays dans lequel il est et le contexte socio-culturel dans lequel il évolue.
Ouais.
Donc parfois il peut être un peu surpris. Par exemple Ibra qui découvre un soir à Bordeaux, ah mec, qu'est-ce que c'est, pays de football, machin et tout. Mais si on lui avait expliqué tout ça, s'il sait tout ça, il vit avec. Il y a deux contextes qui sont différents. Marseille, quand ils vivent une belle aventure, ils ont un mouvement populaire qui est extrêmement positif. Un mouvement populaire médiatique, un mouvement populaire dans la population globale en France qui est très positif. Voilà, c'est comme ça, c'est un constat, c'est ni mal ni bien, c'est comme ça. Le PSG, c'est une opposition à ce contexte-là. Eh bien, si tu ne sais pas quand t'es dans ce club, si on ne te raconte pas toutes ces choses-là, si tu ne vis pas avec ça, tu ne peux pas transformer ça en force. Je reprends l'exemple de Mourinho avec l'Inter. Il avait transformé ça en force et les mecs étaient comme des chiens galeux. On disait, de toute façon, personne peut nous blairer. On s'en fout. On va bouffer tout le monde quand même. Tu dois inverser ce truc-là.
Et donc, pour vous, c'est cette mauvaise approche de ce côté-là.
C'est en fait,
qui fait que tous les ans, à ce moment-là, on a les mêmes problèmes.
C'était ton avis.
C'est des aspects. J'ai dévié sur un autre problème.
Non, mais c'est intéressant.
Mais c'est un peu le fond du problème. Tu mets le doigt sur le fond du problème. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Maxime, tu veux rajouter un truc?
Le fond du problème, c'est d'abord le jeu, toutes ces choses-là. Mais après, le contexte mental qui dans lequel tu évolues, c'est comme, je sais pas, un champion quand il te raconte qu'il a beaucoup souffert, que le moteur psychologique de ses victoires ont été, je sais pas, la disparition d'un tel,
j'ai du mal
ou la revanche par rapport à un événement, ou par rapport à une défaite, tout ça.
J'ai du mal à croire que justement les joueurs étrangers qui arrivent de très très loin et qui sont très éloignés justement de ce souci-là et de la façon dont est traité le PSG, etc. Ça puisse avoir une conséquence sur
Maxime, le mot de la fin pour toi.
Mais si, parce qu'il débarque dans un contexte qui est pas sain autour de l'équipe.
Mais c'est partout pareil.
Laisse parler Maxime.
Tous les grands clubs ont des contextes particuliers et difficiles.
Mais ils s'y adaptent.
Au grand club.
Mais ils s'y adaptent. Le Bayern dans des grandes régions de football.
Les joueurs s'y adaptent.
Le grand club.
Mais c'est super intéressant. Pourquoi tu nous coupes là-dessus? C'est quand même incroyable.
Mais tu veux pas qu'on parle de l'OM? Sinon, on n'a pas le temps, mon vieux. C'est pour toi.
Vas-y, Max. Non, mais je comprends pas. En fait, Pierre, franchement, des fois, je me demande, le Bayern en Allemagne, dans des régions qui sont très fortes, comme le nord du pays, ou à Hambourg, à Dortmund, c'est un club qui est vraiment détesté.
Parce
qu'ils sont très riches, parce qu'ils viennent
d'une région culturelle à ça,
et très riche, la Bavière. Et ben, je peux te dire qu'ils ont toujours au Bayern cette arrogance bavaroise, je peux te dire qu'elle est cultivée. Ils vivent avec ça. Ils savent
mais
de toute façon
je dis pas, je dis
que quand ils gagnent, ils donneront le sentiment d'écraser l'autre.
Les joueurs s'adaptent à ça, c'est ce que je dis.
Donc, mot de la fin pour Maxime pour de bon.
C'est l'histoire qui fait qu'ils s'adaptent à ça. Au PSG, l'histoire n'est pas racontée. Et elle n'est pas cultivée.
Oui, mais là où pour le PSG, c'est plus récent, parce que le Paris est passé du vilain petit canard de la Ligue 1.
Merci.
Oui, mais le PSG, même quand ils étaient Paris, c'était détesté quand même.
Oui, bien sûr.
Mais là, c'est pire! Parce que ça a ajouté la dimension oseille.
Bien sûr.
Investisseur étranger et investisseur arabe. Mais tu peux pas être plus détesté.
Ah, bah non.
Et si tu ne le retournes pas en force, tu peux pas t'en sortir.
Bon, le mot de la fin de Maxime, c'est transformé en avis de Daniel.
Les blessures,
très intéressante.
Bon, écoute, vous ne serez pas d'accord.
Moi, le contre-exemple, et hier soir, j'avais pas pu te donner, mais pour moi, le contre-exemple parfait que vous dites, c'est Cavani, qui se blesse. Cavani, il n'y a pas plus costaud mentalement que ce joueur. Il s'en fout de tout ce qu'on peut raconter sur lui. Il se blesse quand même, au mauvais moment. Bon, c'est un contre-exemple.
Je suis désolé, je ne suis pas assez clair.
Non, mais Pierre n'est pas un freudien.
Non, mais je suis.
Mais il ne comprend pas.
Je ne sais pas, je ne comprends pas. Quand tu n'es pas d'accord avec toi, c'est pas forcément qu'on ne comprend pas, mais qu'on n'est pas d'accord avec toi, tout simplement.
Mais croire que le sport n'est pas baigné dans un contexte culturel, c'est une erreur majeure.
C'est pas du tout ce que je t'ai dit. Je te parle là de que les
Français
ne sont pas tous d'ordre psychologique au Paris Saint-Germain. C'est totalement faux.
On oublie le PSG dans quelques instants.
On ne prend
pas les durées de la Ligue 1. On vous attend au 36-16. À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Et on est là jusqu'à minuit, Daniel Riolo, Pierre Ducrot et Maxime, le dernier finaliste de l'After Academy, est avec nous. Alors vous le savez, c'est une Ligue des Champions. Du coup, dans l'After, on vous offre cette semaine vos places pour la Ligue des Champions. Et ouais, toute la semaine, on vous offre tous les jours des places pour le match de l'OL mardi prochain contre le Barça. C'est pas rien.
Magnifique. Alors, cadeau.
Exactement. Donc pour remporter vos places, c'est très simple. Faut écouter RMC toute la journée. Eh ouais, toute la journée. Et à un moment ou un autre, il y a un signal sonore qui va retentir, que vous allez identifier, mais de façon absolument parfaite. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas bon, c'est pas dur. Donc dès que vous entendez ça, pam, là, vous envoyez foot par SMS au 732-16, vous envoyez foot par SMS quand vous entendez le fameux qui ne saute pas. Voilà. Et derrière, il y a un tirage au sort, bien sûr, pour désigner le gagnant. Donc ça tombe plusieurs fois dans la journée. Ça peut être Jean-Jacques Bourdin, comme chez Vincent Moscato, Maïté Nao dans l'After. Donc restez bien à l'écoute, c'est toute la semaine vos places à gagner pour la Ligue des Champions. Juste un petit message pour toi, Pierre. Mm-hmm. Parce que t'as fait des mécontents à Angoulême. Erwan nous dit, je signale quand même à Pierre Ducrot qu'Angoulême a fait la Coupe d'Europe des villes de foire en 71, notre meilleure période.
Alors c'est plein d'humour, tant mieux. Mais je signale à Erwan que c'est Daniel qui a parlé d'Angoulême et pas moi. Et que moi j'ai défendu justement Angoulême.
Justement, jingle Riolo.
J'adore le cirque. J'aime pas trop justement les animaux. Enfin, les fauves, je veux dire, les animaux de ce genre. Après, quand ils font des numéros avec des petits chiens, tout ça, c'est rigolo.
Je précise que tout à l'heure, ce qu'on a entendu sur le jingle de Maxime, c'était Rousselot, le président de Nancy, en fait, qui
c'était pas Cédou?
Non, c'était Rousselot.
Ah, bah donc c'était Rousselot.
Donc en fait, ça collait. Mais voilà. Daniel, tu voulais parler de l'OM ce soir? Parce qu'il n'y a pas que le PSG dans la vie.
Régalé, j'en ai trouvé. Je peux te dire déjà le premier que j'ai mis.
Pourquoi? T'as trouvé un péno de Cavani frappé? À mon avis, c'est pas grave.
Bon, l'OM, Daniel.
Il est là.
Donc, sous mes yeux. Oui, je voulais parler de l'OM qui a donc enchaîné deux victoires de suite. Et on sous-estime toujours notre Ligue 1 dans la possibilité de surprise et de comeback qu'elle offre parfois. Et on sait le concept du deux victoires de suite et mieux encore trois victoires de suite qui suffit à immédiatement te replacer dans des sphères qui sont intéressantes. Néanmoins, et c'est ça qui est fou quand même, c'est qu'avec deux victoires de suite, avec un parcours et une moyenne de 1,54 points par match. Oui, je me lance dans les chiffres.
C'est très chiffre.
Accrochez-vous, je me lance dans les chiffres. 1,54 points par match. 9 défaites. 9 défaites. Combien il y a d'équipes qui ont plus perdu que l'OM dans le championnat, vous savez?
Non.
Allez, au hasard.
Trois.
Oh non, 3.
Ouais, je te choque avec ça.
On repose la question.
Combien d'équipes ont plus perdu que l'OM? Il n'y a que 6 équipes qui ont plus perdu que l'OM.
J'allais te dire 5.
6 équipes seulement. Il y a combien d'équipes qui ont une pire défense, Golem. 5. T'imagines? Ils ont des stats qui sont absolument horribles. Et pourtant, l'OM est 6e avec 37 points. Et
Au niveau de l'attaque, ils sont où alors du coup?
Honnêtement,
bah, ils ont, pour être là avec la défense,
ils ont marqué 38 buts, ils ont une différence de plus 4 qui est très franchement comparé aux équipes qui sont devant. Moi, je parle pas du PSG, mais Lille plus 20, Lyon plus 11, Montpellier plus 12. Après c'est que des différences qui sont presque incroyables en Ligue 1. T'as Strasbourg qui a plus 12, mais après tout le reste c'est des différences qui sont pas très favorables. C'est ça aussi, c'est l'homogénéité de cette Ligue 1 et ces chiffres là qui font que t'es toujours un petit peu dans le coup, et avec 37 points donc ils sont largement dans les temps pour finir quatrième, ce qui sera pas du tout en phase avec ce qu'ils avaient prévu parce qu'ils veulent la Ligue des Champions et mon avis sera court finalement. Mais effectivement et indéniablement, comme on pouvait le pressentir sur 6 mois, parce que le reste, on peut jamais prévoir avec lui. Mais Balotelli, comme je le disais, il est capable, dans le sursaut d'orgueil, d'aller te coller les 8-10 buts qui vont te permettre de recoller au haut du tableau. Et il a bien commencé, de buts en deux matchs. Certains joueurs qui étaient un petit peu en dedans commencent à aligner des performances correctes, voire bonnes, comme Khaled Achar. Strootman, ça m'étonnerait pas qu'il soit un peu mieux avec le rythme des matchs qui va beaucoup se réduire et les températures qui vont devenir plus agréables pour le corps. Non mais c'est vrai. Et au final, l'OM peut jouer en plus, il faut à cela ajouter Montpellier et Saint-Etienne qui sur la fin de saison vont peut-être eux perdre un petit peu de terrain. La quatrième place, elle sera jouable pour Marseille. Ce sera pas dans les plans initiaux parce qu'ils voulaient le podium, et ça en revanche, ça je dois dire et je conclue avec ça, le podium, franchement, là, c'est mort. Je vois absolument pas comment ils vont pouvoir aller choper le podium.
Pierre, est-ce que tu es d'accord avec Daniel?
Mais quatrième, ce serait déjà énorme.
C'est un constat au vu de la saison. C'est un constat où, oui, comment tu veux ne pas être d'accord là?
C'est un constat chiffré.
Ce sont des faits, ouais, voilà.
C'est un constat chiffré. Après, je pourrais te dire que
la seule chose, c'est la Ligue 1. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Daniel.
Le niveau de la Ligue 1 permet ça. Avec 1.5, tu peux finir en Europe.
La seule chose pour laquelle je suis pas d'accord avec toi, c'est que Strootman n'aurait pas pu être meilleur avec une météo moins clémente. Ça là-dessus, j'ai du mal. Hein. Non, mais si on reproche à Rabiot de pas être prêt quand il fait froid et de pas pouvoir le clamer, on peut pas dire ça avec Strootman.
Non, mais les corps se portent toujours mieux quand les
Maxime, d'accord ou pas d'accord?
Je sais pas, parce que je me dis que Marseille, c'est aussi une bataille d'ego qui les a amenés jusque là, jusqu'à présent, et t'es pas à l'abri que ça retombe, quoi. Quand Payet va revenir sur le terrain, est-ce que Rudy Garcia va encore changer son plan de jeu pour réintégrer Payet? Est-ce qu'il va essayer de persévérer comme ça avec Germain qui est mieux?
D'ailleurs, j'aurais dû dire, t'as raison d'aborder ça, Maxime, j'aurais dû dire que évidemment l'OM est mieux sans Payet.
Ben moi je trouve aussi.
Et qu'Ocampo, et que dans ce dispositif-là, Ocampo sera beaucoup plus utile à Balotelli, qui va devenir l'homme fort de l'OM.
Et du coup,
dans cette fin de saison.
Comment réintégrer Payet à une?
Mais il devrait pas le réintégrer. S'il veut être quatrième, il doit pas le réintégrer. Faut pas qu'il le réintègre s'il veut finir quatrième, au contraire. Ça va être très compliqué de le faire jouer là-dedans.
Ah, mais du coup, c'est un joueur qui te coûte très très cher.
Ah, mais là, au point
de vue, je pense que Rudy Garcia réfléchit même plus à ça, là. La situation dans laquelle il est, je pense que il sera capable de le faire, de s'en priver, en tout cas.
Ouais, Garcia, oui, mais Payet, lui, a une importance dans le vestiaire, et si lui décide à être bougon et à foutre un peu le bordel dedans,
ouais.
T'es pas là que ça afflue le résultat.
Je pense. Il y a un peu de psychologique ou quoi encore là-dedans?
Non, je vais pas t'en mettre à chaque fois.
C'est marrant quand même cette volonté de nier la psychologie dans le sport de haut niveau.
C'est de l'humour, Daniel.
C'est ce qu'il y a de plus important. De l'humour.
Ah, tiens, je voulais vous faire écouter un truc. Balotelli, puisque t'en parlais. Ouais. Vous savez que l'OM a pas pu rentrer en avion le jour de Dijon, parce qu'il y a un problème d'avion avec la météo et tout.
Ils sont rentrés en bus.
Alors ils sont arrêtés dans les aires d'autoroute et tout. Ils ont fait leur petite course. Et du coup, Balotelli, comme il fait partager sur ses réseaux sociaux à peu près toute sa vie, bah là, on voit Balotelli acheter des chips. En fait, c'est assez drôle. Regardez.
Oh, Maxi Crack.
Ah, il a son paquet de chips, là.
C'est bon, questo. Toujours aussi savoureux. Mais comment c'est dentro? C'est mon poisson.
Voilà, il kiffe son paquet de chips.
Tu vois ce qu'il dit, là. Voilà.
Regarde.
C'est que Balotelli à la station totale de Beaune.
Merci, Flo.
Voilà. C'était son petit conseil, les chips de la nuit. Maxi Croquante. Il y a eu les McDo de Gignac, et maintenant les chips de Balotelli.
Très bien.
C'est magnifique.
Pas trop, hein, quand même.
Dans quelques instants, les drôles de dames. Elles sont pas maxi croquantes, hein, les drôles de dames. Enfin, Simone Rovera, c'est très croquant.
Ça, il a un penalty à me montrer, Pierre Ducrot. Je suis impatient, là.
Faut oui, parce qu'il t'a trouvé un autre penalty de Cavani frappé fort.
Oui, il a frappé, externe.
Et
où, comme ça,
et où il ne s'est pas blessé.
Non, pas externe. Daniel, il a pas frappé externe. Il frappe coup du pied. Ah ouais, mais alors, voilà, le problème, il est là. Si tu me dis que Cavani, là, il a frappé externe contre
moi,
Bordeaux,
je te dis fort, là, on fort côté ouvert. Mais c'est ça que je te dis.
Coup du pied.
Depuis le début.
Allez, à tout de suite avec les drôles de dames. L'after revient dans quelques
minutes.
RMC Football Show, l'After Foot.